Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Grâce Samzati.
Pour établir la paix dans l'est de la RDC, le président angolais et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, João Lourenço, est chargé par ses pairs de rapprocher Kinshasa et Kigali. Mission reçue hier à Luanda lors de la clôture du sommet de la SADC. Dans la province de la Tchopo, après plusieurs mois de grève, les infirmiers décident de reprendre le travail dès ce lundi 6 novembre. Cette décision est consécutive à une réponse favorable du gouvernement à certaines de leurs revendications, affirme leur porte-parole. L'invité de ce journal est le docteur Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan dans la province de la Tchopo. Il nous parle de la revue annuelle des activités du programme de coopération RDC-UNICEF pour l'exercice 2023 dans les provinces de Bazuélé et de la Tchopo. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Le président angolais et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, João Lourenço, a été chargé hier samedi par ses pairs de rapprocher Kinshasa et Kigali pour parvenir à la paix dans l'est de la RDC. Il a reçu cette mission lors de la clôture du sommet de la SADC tenu à Luanda. Le sommet de Luanda a ainsi fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Les États membres de cette organisation sous-régionale ont également salué les efforts déployés par João Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans cette partie de la RDC. D'autres détails du communiqué final de ce sommet avec vous, Alain Rung-Mouchins.
Le sommet a fait part de ses vœux de paix et de succès à la République de Madagascar et à la RDC car ces deux États membres de la SADC tiennent leurs élections en novembre et en décembre 2023 respectivement et a réitéré le soutien de la SADC par le biais du déploiement de la mission d'observation électorale de la SADC, a indiqué le communiqué final de ce forum. Les pays de la SADC ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et à la reprise de la guerre du M23 en violation du cessez-le-feu. Cette réunion a félicité les États membres et en consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission SADC en RDC. Cette rencontre a rappelé la nécessité de prendre le devant dans les efforts visant à mobiliser des ressources nécessaires à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région de la SADC. Ces efforts incluent la relance des échanges en vue d'établir et de rendre opérationnel le Fonds pour la paix de la SADC ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux de coopération.
Merci à vous, Alain Rung, pour toutes ces précisions. Entre-temps, sur le terrain, au nord Kivu, des combats sont signalés depuis ce dimanche matin aux environs de la cité de Kichanga, dans les territoires du Masisi. Selon des sources sur place, les rebelles du M23 RDF ont attaqué les positions des résistants patriotes Wazalendo à Kabalekasha, Burungu et Rushebeche. Et des notables dans la zone indiquent que les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, chercheraient à forcer pour réoccuper Kibaririzo, Mushaki et Kiroliroué afin d'avoir le contrôle de la route. Le porte-parole du gouverneur confirme et condamne ces attaques. Le point avec Jacques-Yves Molima.
C'est depuis 4h30 ce dimanche que des violents combats opposent les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise aux résistants patriotes aux environs de Kichanga. Les notables dans la zone expliquent que le M23 a attaqué deux positions des résistants patriotes à Nyakabingu et Kabalekasha, à environ 3 et 5 kilomètres de Kichanga sur la route de Goma. En fin de matinée, certains habitants de Kichanga que nous avons contactés indiquent que les tirs qui se poursuivent s'éloignent de plus en plus de la cité. La société civile dans la zone note que la crainte est perceptible au sein de la population de Kichanga. Une crainte due au fait qu'il y a quelques jours, les rebelles du M23 avaient promis de s'en prendre à la population si seulement les résistants patriotes attaquaient la cité. Pendant ces temps, les quelques personnes qui avaient commencé à regagner les localités autour de Kichanga comme à Nyakabingu fuient de nouveau pour se mettre à l'abri à Kichanga. Pour sa part, le colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur militaire, condamne ces attaques des rebelles du M23 appuyées par l'armée rwandaise.
Jacques-Yves Molima Aouta sur la fréquence de la paix. Par ailleurs, la population du territoire de Rumwanitori doit se liguer pour la promotion d'une paix durable et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés locales. C'est le message adressé par le chef de bureau de la MONUSCO à Nitori aux différentes couches sociales de cette contrée lors de sa mission de deux jours qui s'est clôturée hier à Komanda. Marc Carnassoro a demandé aux leaders communautaires de bannir les violences en recourant au dialogue pour régler leurs différends et aux groupes armés de se débarrasser des armes en vue de créer un environnement propice qui attire les investisseurs et permet la relance des activités agricoles, économiques pour le bien-être de toute la population. Il est au micro d'Isaac Raymond.
Je voudrais juste insister sur deux éléments. Le premier, c'est l'importance de la cohabitation pacifique. Il est important pour que la paix revienne. Il est important pour que tous les efforts de développement qui vont se faire puissent se consolider, que tout le monde adhère au principe de cohabitation pacifique, qu'on puisse vivre ensemble. Et je n'ai aucun doute que la jeunesse même trouvera son compte dans cette cohabitation pacifique. Le deuxième point, c'est la question des groupes armés. Les jeunes gens doivent se débarrasser des armes. Le problème réside dans les armes. Il faut qu'impérativement, ils viennent rejoindre le programme DDRCS et déposer ces armes-là, que la communauté les voit en train de se débarrasser de ces armes. Ça va rassurer tout le monde. Ça va créer une autre dynamique. Les routes vont se faire, les gens vont aller au champ, l'agriculture va reprendre, le commerce va reprendre, tout le monde aura quelque chose à faire, tout le monde pourra se retrouver.
Pendant son séjour, le chef de bureau de la MONUSCO a échangé avec les représentants des jeunes, des femmes, des communautés et de certains groupes armés et des services de sécurité. Et puis, au Kasaï-Oriental, 5 ans de prison ferme, c'est le verdict prononcé vendredi dernier à l'endroit de Philemon Ilunga, chef de bande d'un groupe de délinquants qui s'affrontent à la machette dans différents quartiers de la ville de Mbujimayi. C'était à l'issue d'un procès en flagrance ouvert pendant 2 jours à la prison centrale par le tribunal de grande instance de Mbujimayi, soit mercredi et jeudi dernier. 4 chefs d'accusation étaient portés à charge de ces jeunes hommes de 21 ans. C'est notamment la rébellion, coups et blessures volontaires, menaces et associations de malfaiteurs. Un de ses coéquipiers a écopé d'une peine de 12 mois de servitude pénale. 15 autres personnes arrêtées le même jour, soit mardi dernier, par la police, ont été acquittées par les TGI, faute de preuves. Rappelons que ces jeunes délinquants ont été arrêtés mardi dernier après les affrontements sans motif valable qui se sont produits lundi dernier dans plusieurs coins de la ville et créant une panique dans la population. Je l'ai dit dans les titres, dans la province de la Tchopo, après plusieurs mois de grève, les infirmiers décident de reprendre le travail dès ce lundi 6 novembre courant. Ils ont fait savoir au cours d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à l'hôpital général de référence de Makiso Kisangani. Selon le porte-parole du syndicat des professionnels et administratifs de santé, cette reprise est consécutive à une réponse favorable du gouvernement à certaines de leurs revendications, notamment la paix complémentaire ainsi que la prise en compte de l'alignement des 11 000 infirmiers et agents administratifs à la prime professionnelle. Didier Wakambu explique dans ses propos sélectionnés pour nous par Jacques Moukonkole.
Nous vous informons que le travail reprendra à partir du lundi 6-11-2023. Au regard des quelques résultats enregistrés en ces jours, notamment la paie complémentaire. Toutefois, les syndicats des professionnels et administratifs de santé vous demandent d'instruire au ministre concerné de parachever dans un bref délai la mise en œuvre de 1. Alignement à la prime de risque dont les listings sont déjà disponibles au budget. La promotion en grade et admission sous statut des professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la fonction publique. De plus, les syndicats des professionnels et administratifs de santé n'approuvent pas les menaces qui pèsent sur les agents suite au mouvement de la grève.
Merci d'écouter Radio Kapi à Kindu, dans la province du Maniema, où le secrétariat exécutif de la CENI a réuni hier les cadres des partis et regroupements politiques dans un cadre de concertation porté sur le processus électoral. Il était question pour la CENI d'échanger avec ces derniers sur le processus électoral dans la province. Florence Kizalunga, Radio Kapi Kindu, reportage.
Le secrétaire exécutif a rassuré les cadres de partis et regroupements politiques de la tenue des élections en décembre prochain, tout en les exhortant de ne pas être distraits. Moutoma Bouchir et Sylvestre.
À ces jours, il nous reste que 46 jours pour que nous puissions les appeler au scrutin combiné du 20 décembre prochain. Il a fallu qu'ils sachent là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire les processus fonctionnent comme en maniement, avec ce déploiement de matériel, avec cette deuxième et troisième cascade de formation qui se termine lundi, et leur tenir informés sur le fait que s'ils continuent à rêver, ils seront en retard avec l'accréditation des témoins et les observateurs.
Les participants saluent cette initiative. Expedi Kabunga Mayuka est président interfédéral de la Convention pour la République et la Démocratie, CRD.
Moi je crois que sincèrement cet échange a été fructueux. L'échange a permis de mettre à disposition des partis politiques que nous sommes et des candidats qui étaient présents les informations nécessaires par rapport aux processus électoraux. Surtout concernant les témoins et les observateurs. Toute une mine d'informations très importante par rapport au processus électoral.
Les participants ont demandé à la CENI de toujours les informer à temps réel pour avoir la bonne information. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Par ailleurs, au sud Kivu, le cadastre agricole est effectif dans 3 territoires pilotes de la province. Ce nouveau service étatique a été lancé par les gouverneurs des provinces à travers un arrêté. Les agents recrutés pour exécuter les travaux de terrain viennent de bénéficier d'une formation grâce à l'appui financier de l'ONG internationale ZOA. L'expert Séverin Mugangu revient sur le rôle à jouer par les agents du cadastre agricole après cette formation de 4 jours à Bukavu. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Le gouverneur a déjà lancé le cadastre. Une première chose qu'ils vont devoir faire, c'est de constituer le répertoire des concessions et de mettre à jour les informations sur ces différentes concessions. Et les données à mettre à jour, c'est notamment par rapport aux cessions, au morcellement dont les concessions ont fait l'objet, c'est d'évaluer le coefficient d'occupation du sol qui est exigé par la loi, et donc le nombre d'arbustes, par exemple, qu'on doit avoir à l'hectare lorsqu'il s'agit d'une plantation de café ou de cacao. Et une fois qu'ils auront fait cette évaluation, ils vont préparer techniquement la possibilité de faire louer par le concessionnaire les parties non occupées de la concession, de façon à augmenter, à améliorer l'accès à la terre pour la petite paysannerie.
La prochaine étape, c'est la descente sur le terrain pour jouer le rôle attendu par l'exécutif provincial, celui de lutter contre l'importation des produits vivriers dans une région pourtant dotée de potentialités agricoles incommensurables. Cette première phase touche 3 territoires du Sud Kivu, à savoir Kale, Idju et Uvira. Les autres 5 territoires seront concernés progressivement. Revenons un instant dans la province du Kasaï Oriental pour vous dire que la régie des Mbujimayi vient d'être dotée d'un nouveau groupe électrogène de 550 kVA ainsi que de 2 camionnettes pour le transport du personnel. Quelques cadres de cette entreprise, conduits par le directeur provincial adjoint, ont présenté jeudi dernier cette dotation au gouverneur des provinces intérimaires. D'après Godefroy Ndjoy-Leke, les techniciens sont à pied d'œuvre pour mettre en service ce groupe qui va permettre à la régie des eaux de desservir en eau potable les zones à les moyennes et hautes de la ville de Mbujimayi. Godefroy Ndjoy-Leke, directeur provincial adjoint, est joint par Esther Ndalafina.
Ce groupe-là va être installé dans notre station de repompage de Bakwakapanga qui assure le refoulement de l'eau de l'usine vers la zone haute et la zone moyenne. Les deux groupes qui étaient en service sont tombés en panne. Ça fait 2 semaines ou plus même. Alors nous ne savons pas donner de l'eau à cette partie de la ville si NRK ne nous donne pas du courant. Alors avec l'arrivée de ce groupe et surtout aussi avec l'insuffisance de NRK, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour que la partie située dans la zone moyenne et haute de la ville soit desservie en eau potable. Nous avons bénéficié de l'appui du gouvernement, notamment la présidente de la République qui nous a doté d'une subvention, mais il y a rupture de stock. Et là, nous nous débrouillons pour fonctionner, c'est-à-dire avec le recette réalisée avec le paiement des abonnés. Si les abonnés ne payent pas, nous avons des difficultés pour fonctionner.
À Goma, pendant ce temps, un lot de 1000 ampoules LED de 5 watts vient d'être mis sur le marché par des jeunes étudiants en faculté des technologies, filière génie électrique de l'Université libre du pays du Grand Lac, ULPGL, réunie au sein de l'entreprise dénommée Photon Corporation, spécialisée dans le service et la production en électronique. Ces jeunes ont assemblé ces ampoules à Goma grâce au matériel commandé en Chine. Ils ont organisé samedi, au sein de leur université, une expo-vente de ces ampoules. Rosalie Zawadi a assisté à cette activité. Voici son reportage.
Ecolight, pour dire lumière économique et écologique, c'est le nom du projet initié par ces jeunes ingénieurs de Goma. Dès la conception des lampes à leur assemblage, ils sont fiers de tenir les deux bouts du projet. Mais au milieu, la production du matériel est faite à l'étranger par manque d'usines localement, explique Crispin Chirouluré, étudiant à l'ILPGL et directeur des Photon Corporation.
Le principal travail, c'est que nous faisons la conception du modèle. Ensuite, nous passons la commande des matières premières, des composantes principales de ces lampes à partir de certains fournisseurs, de certains partenaires chinois. Et ici, nous faisons juste l'assemblage. C'est avec principalement une main-d'œuvre estudiantine.
Certaines familles de Goma utilisent déjà ces ampoules économiques. C'est le cas de cette cliente qui utilise les courants prépayés de la compagnie Virunga SARL.
Et j'ai consommé leurs produits. Ce sont des LED économiques. Et moi, premièrement, j'ai vraiment apprécié. Avec les courants prépayés, en tout cas, ces LED sont très économiques. Ça ne consomme pas et ça éclaire parfaitement très bien.
Les comités des étudiants de l'ULPGL est fier de ces projets et invite les partenaires à soutenir ces jeunes ingénieurs pour une production à grande échelle. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guyane Jumalon, 57 ans, a été abattu par un homme armé dans le studio de la radio locale installé à son domicile. Il est le quatrième journaliste assassiné depuis l'investiture du président Ferdinand Marcos en juin 2022, dénonce l'Union nationale des journalistes des Philippines.
L'invité.
Il s'agit du docteur Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan dans la province de La Tchopo. Il nous parle de la revue annuelle des activités du programme de coopération RDC-UNICEF pour l'exercice 2023 dans les provinces de Bazouélé et de La Tchopo. Cette évaluation, appuyée totalement par l'UNICEF, a été organisée à Kisangani du 2 au 3 novembre 2023. Les activités se sont déroulées normalement à plus ou moins 80% dans l'ensemble. Cependant, d'autres activités n'ont pas bien évolué faute de financement. Que faut-il faire pour améliorer la donne au cours du prochain exercice? Docteur Norbert Mosunga en parle dans cet entretien accordé à Jacques Mokonkole.
Docteur Norbert Mosunga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez de présider le travaux de la revue annuelle UNICEF pour les provinces du Bazouélé et de la Tchopo. Qu'est-ce qui justifie cette revue annuelle?
Merci pour la question. Bon, vous savez que le programme de coopération entre la République démocratique du Congo et l'UNICEF, c'est un programme pays. Un programme pays pour lequel l'UNICEF a choisi certains aspects selon son domaine d'intervention pour appuyer. Et comme on appuie la République et que nous qui sommes là pour bénéficier au travers les enfants et les femmes congolais, nous devons savoir évaluer à tout moment, à la fin de chaque exercice, la mise en œuvre de ces programmes.
Quels sont les secteurs concernés par cette évaluation?
Le programme concerne les secteurs de la santé, l'éducation, la gouvernance pour la protection des enfants, il y a la nutrition, il y a aussi planification, suivi et évaluation, la communication. Ce sont les secteurs à travers lesquels UNICEF appuie dans le cadre du programme de coopération RDC de la Côte.
Au terme de cette évaluation, deux jours après, quel est le constat général qui se dégage?
Le constat général est tel que le programme pratiquement a été mis en œuvre de manière convenable au niveau de nos deux provinces. Il y a eu des appuis, mais qui n'était pas tellement substantiel comme ce fut par le passé, puisque vous connaissez, il y a l'UNICEF qui connaît actuellement un déficit financier, puisque lui aussi, il n'a pas l'argent, mais ce sont les contribuables qui donnent ces fonds-là. Vous voyez, avec la situation et le climat de notre pays, les partenaires qui appuient l'UNICEF hésitent pour dire que s'ils mettent leur argent, ça risque de se perdre, ça ne peut pas atteindre les bénéficiaires. Alors, la raison, nous avons vraiment la raison de pouvoir faire en sorte que le climat soit apaisé dans notre pays pour que nous puissions encore bénéficier davantage de tout ce que nos partenaires amènent.
Quel est l'état global des interventions au cours de l'exercice passé?
D'une manière générale, puisque ça dépend de différentes interventions clés qui ont été inscrites dans le plan de travail roulant, il y a deux fois des interventions qui ont atteint 90%, il y a des interventions qui ont atteint 40%, mais d'une façon minimale, pouvons dire que la mise en œuvre a été atteinte à environ 80%.
Dans quel secteur où les choses n'ont pas évolué comme il se devait, comme vous l'attendiez, par exemple?
Oui, c'est surtout dans le domaine des communications et la protection des enfants. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas eu vraiment, surtout dans les bases huilées, ils n'ont pas eu suffisamment de fonds, puisque imaginez-vous que toute l'année 2023, le bases huilées n'a bénéficié que de 1 580 $ américain, ce qui n'a pas permis afin que les choses puissent aller normalement. C'est ainsi que là, il y a eu certaines activités qui n'ont pas vraiment conduit à l'air ici, et c'est ce qui a fait que cela puisse tirer vers le bas les résultats de nos deux provinces.
Des recommandations ont été certainement formulées à l'issue de vos travaux. Lesquelles, par exemple?
Les recommandations qui ont été formulées, c'était dans le sens, comme je venais de vous le dire, que notre partenaire puisse prendre en compte l'immensité des besoins qui se posent pour pouvoir couvrir et améliorer la situation des affaires des femmes dans nos deux provinces. C'est-à-dire, il faut qu'on voie en sorte qu'on mette en sorte qu'on prévoie des fonds suffisants pour que les activités puissent être mises en œuvre. Et ensuite, il y a eu aussi, pour ce qui est de la santé, il y a eu une recommandation qui a voulu que les structures de santé, tant dans le Bas-Huilé que dans la Tchopo, puissent faire en sorte qu'on arrive à réaliser la vaccination de manière concrète pour qu'on puisse éradiquer certaines maladies qui sont parties, qui commencent à réapparaître, telles que la polio dans notre province de la Tchopo. Puisque on a soulevé qu'il y a eu 3 cas de polio sauvage, alors il faut en sorte qu'on puisse arriver à procéder de manière concrète et suffisante, assurer la vaccination des enfants pour éviter ce genre de résurgence de maladies qui étaient pratiquement éradiquées.
Docteur Norbert Musunga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Jacques Mukonkole. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rungmuchins. Alain Goy était à la mise en onde. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sous la radio de la paix. Au revoir.